Studio Tamani, voici nos informations en français.
À la mise en onde, Gagny Kanté, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de cette édition. Le gouvernement a dévoilé ce week-end la liste de 50 membres du comité d'orientation stratégique. Si des partis politiques dénoncent le retard pris pour sa composition, la société civile, elle, se dit faiblement représentée. 65 milliards de francs CFA, c'est le fonds que l'Union européenne compte mobiliser pour aider le Mali. Selon le haut représentant de l'UE en fin de visite dans le pays, ce fonds va servir de plan de réponse à la situation alimentaire et sécuritaire dans le pays. La grève des hôpitaux du Mali se poursuit. Les patients dénoncent le service minimum qu'offrent ces hôpitaux durant ce mouvement. Les grévistes, eux, soutiennent qu'ils font de leur mieux. Le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La liste des membres du comité d'orientation stratégique a été rendue publique ce week-end. Ils sont au nombre de 50 personnes, dont 10 femmes issues de la classe politique et de la société civile. Selon certaines formations politiques, la mise en place de ce comité est en retard par rapport à la durée de la transition. En revanche, la société civile se dit faiblement représentée en son sein. Les explications avec Khalifa Goïta.
Selon le parti Élément, c'est un pas en avant pour la réussite des objectifs. Mais il souhaite que les recommandations qui seront faites lors des travaux du comité d'orientation stratégique ne dorment pas dans les tiroirs. Amidou Doumbia, secrétaire politique des Élément.
C'est une bonne chose. Les recommandations qui vont être données, que ces recommandations soient respectées. Parce qu'en Mali, nous avons l'habitude de regrouper les gens, faire des propositions et qu'ensuite on les jette dans les poubelles. Donc si dans les propositions se fassent pour l'intérêt exclusif du Mali, je pense que ça pourrait être un grand espoir pour tout un chacun.
Cependant, la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, s'interroge sur les rapports que ce comité entretiendra avec la cellule d'appui aux élections au ministère de l'administration territoriale. Car selon son président, Ousseni Aminyon Guino, cela n'est toujours pas défini.
Quel sera le rôle, les rapports qu'ils auront avec l'organe installé auprès du ministère de l'administration territoriale, mais aussi ce comité d'orientation stratégique vient un peu quand même en retard. Nous sommes déjà à 8 mois du début de la transition et c'est maintenant qu'il faut réfléchir les réformes à tenir. C'est un peu difficile.
La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM, déplore le nombre du quota octroyé à la société civile au sein de ce comité. Drissa Traoré, président de la COSEM.
Nous prenons acte de la désignation des pays. C'est quand même regrettable que la société civile soit sous-estimée. Pour nous, la priorité des priorités, c'est la révision constitutionnelle pour le bonheur des Maliens.
Rappelons que le comité d'orientation stratégique est un organe consultatif créé le 31 mars dernier. Objectif, appuyer le Premier ministre dans sa réflexion pour la réussite des réformes institutionnelles.
Pour des observateurs, l'initiative de ce comité est salutaire. Ils estiment que celui-ci vient renforcer le gouvernement dans ses idéaux de réforme pour le développement du pays. Toutefois, ils disent avoir des réserves quant aux droits et devoirs de ce comité. Balan Diakité, politologue, est joint au téléphone par Khalifa Goïta.
Je ne crois pas que ça vient en retard parce que depuis que les autorités de la transition ont été mises en place, aucune réforme majeure n'a été menée jusqu'ici. Et donc, de ce point de vue, la mise en place du comité d'orientation stratégique vient effectivement à point nommé pour impulser cette dynamique de réforme et puis accélérer un peu le processus. Mais ce que l'on peut tout de même craindre un peu, c'est bien évidemment les pouvoirs de ce comité. Quel type de pouvoir ce comité va avoir? Est-ce que c'est un comité consultatif? Est-ce que c'est un comité qui est là juste pour appuyer le gouvernement dans ses réformes en proposant effectivement des idées? C'est là la question fondamentale. Pour ce qui est de lueur d'espoir, il faudra peut-être patienter par rapport à ça.
8h04 à Bamako, vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je vous le disais, dans les titres, l'Union européenne envisage de mobiliser près de 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA pour le Mali. L'annonce a été faite par le haut représentant vice-président de l'Union européenne en fin de visite dans le pays. Selon Joseph Borrell, ce fonds va servir de formation des forces armées maliennes à lutter contre contre l'insécurité et de plan de réponse à la situation alimentaire. Le haut représentant vice-président de l'Union européenne a rencontré la presse ce week-end. Moumine Sendebou était sur place.
Selon le haut représentant de l'Union européenne, l'objectif de cette visite était de présenter la nouvelle stratégie de l'institution adoptée pour le Sahel. Joseph Borrell a aussi saisi l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne aux autorités de la transition.
J'ai annoncé une augmentation de notre contribution financière pour faire possible les élections et aider aux réformes structurelles. Ça ne sera pas suffisant pour bâtir un État qui soit présent dans les territoires, qui fasse face aux menaces de sécurité. C'est une aide conditionnelle au résultat.
Au cours de la rencontre, le haut représentant de l'Union européenne a aussi déploré l'augmentation du nombre de déplacés et de personnes en besoin d'assistance humanitaire.
Seulement pendant les premiers mois de cette année, il y a 350 000 personnes de plus déplacées. Un tiers de la population a besoin d'aide humanitaire. Ça, c'est pas soutenable. Et c'est pas seulement en bénéfice des Maliens qu'il faut y faire face.
Nos missions sont des missions de formation, rappelle M. Borrell. Toutefois, il s'est dit conscient de la recrudescence de l'insécurité dans le pays et interpelle les autorités à y faire face.
La sécurité du Mali, c'est une affaire des Maliens. Mais pour cela, il faut développer des capacités. Et la mission qui est sous ma responsabilité, c'est une mission de formation.
Certes, des forces françaises comme Barkhane et Takuba interviennent sur le théâtre des opérations au Mali et dans le Sahel. Mais à ce stade, selon Joseph Borrell, il n'est pas prévu que l'Union européenne aille au-delà de la formation.
Reportage signé Moumine Sendebou. La grève de 10 jours des agents des hôpitaux du Mali se poursuit. Du CHU Gabriel Touré à l'hôpital du Point G, en passant par l'hôpital de dermatologie, les patients se disent inquiets face à cet arrêt de travail. Si les grévistes indiquent que le service minimum est assuré, les usagers de leur côté estiment le contraire. Toutefois, ils lancent un cri du cœur aux autorités du pays de trouver un compromis avec les grévistes. Maman Baba Kunta fait le tour de certains hôpitaux, suivant son reportage.
La grève des hôpitaux nous fait vraiment de la peine. Les gens sont malades et n'ont autre recours que les hôpitaux. Mais que faire? Dieu est grand, on se confie à lui.
Tout comme cette dame, ils sont nombreux les malades qui sont dans cette situation. À l'hôpital du Mali et au CHU Gabriel Touré, les malades et leurs accompagnants disent être dans le désespoir total.
On ne doit pas penser à une grève vu la situation sanitaire du pays. On comprend que les autorités sanitaires ne se soucient pas de nos malades.
Nous implorons les autorités qu'elles trouvent rapidement une solution à cette situation.
Depuis le matin, aucun docteur n'est venu voir notre malade. L'enfant est resté couché toute la matinée sans soins. Nous demandons aux médecins d'avoir pitié de nous, qu'ils viennent soigner nos malades, sinon beaucoup vont mourir.
Pourtant, selon les responsables de ces hôpitaux, le service minimum est assuré. Aux urgences du CHI Gabriel Touré, toute l'équipe est au complet, nous dit le responsable du département, professeur Django Djibo.
Je viens de finir ma visite auprès des malades. Le service d'accueil des urgences fait partie des services qui assurent le service minimum pendant les périodes de grève. Pour vous dire même, hier soir, nous avons travaillé pratiquement jusqu'à 2h, 3h du matin, mais ça ne nous a pas empêché ce matin très tôt d'être là pour assurer le service minimum. Donc je vous confirme que le service minimum il est assuré au niveau du CHU Gabriel Touré à travers le service d'accueil des urgences et les autres poules aussi.
En attendant une solution rapide, les patients continuent de prendre leur mal en patience.
La transition est toute trouvée pour faire le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. Les autorités sanitaires ont enregistré hier dimanche 25 avril 67 nouveaux cas de COVID-19, 82 guéris et 5 décès. La situation cumulée est donc de 13 627 cas positifs, 467 décès et 8071 guéris. C'est ce qui nous conduit à votre rubrique Actu Covid, présentée ce matin par Amsé Toutouré.
À la date du 22 avril 2021, près de 44 000 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19 au Mali selon les autorités sanitaires. Celles-ci affirment que la vaccination va s'étendre dans de brefs délais aux autres localités du pays en plus de Bamako. Le ministère de la Santé souligne aussi que d'autres vaccins différents de AstraZeneca sont attendus dans les prochains jours pour accélérer la vaccination. Notre reporter Khalifa Goïta s'est entretenu avec Marc Atié Dao, chargé de communication au ministère de la Santé. Il nous fait le point.
Il s'agit encore une fois d'un vaccin qui fait partie des meilleurs vaccins qui puissent exister pour le moment. Par rapport aux effets post-vaccinaux, ils sont vraiment minimes. La vaccination se passe bien à travers la ville de Bamako.
Justement, quand est-ce que la campagne de vaccination dans les autres localités à l'intérieur du pays va débuter?
On a commencé déjà par la région de Koulikoro, le cercle de Kati a commencé la vaccination et l'extension se fera en fonction de la disponibilité au vaccin très prochainement. L'étape des régions va commencer. Il ne s'agit pas de le faire de façon systématique à toutes les régions, mais c'est en fonction de l'existence de la maladie et surtout du taux de positivité dans ces régions. Nous sommes en train de travailler à l'arrivée d'autres vaccins. Ça va être des vaccins d'origine russe et chinoise et il y aura peut-être éventuellement Johnson & Johnson parce qu'il s'agit de la santé de la population. Mais cela ne veut pas dire que le premier vaccin qui est à notre disposition souffre de problèmes de qualité, non. Mais il s'agit d'avoir suffisamment de moyens pour rompre la chaîne de transmission.
Quand est-ce que ces vaccins seront réceptionnés?
La procédure est enclenchée. Nous ne saurions vous dire exactement quel jour le vaccin sera là. On espère que ça viendra dans les meilleurs délais.
À présent, la question d'auditeur du jour, puis la réaction de professeur Daouda Kassoum Menta, membre du comité scientifique Covid-19 du Mali.
Malgré l'augmentation du nombre d'infections au coronavirus, des localités au Mali n'ont pas encore enregistré des cas. Est-ce à dire qu'elles sont immunisées?
Là, il faut faire des prélèvements, voir des localités qui n'ont pas été contaminées. Quel a été le facteur protecteur? Est-ce qu'ils ont fait la maladie de façon asymptomatique? Ils ont développé des anticorps? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Voilà des sujets de recherche qui sont aujourd'hui à notre portée. C'est là qu'il faut aller aujourd'hui pour une meilleure compréhension de la maladie.
C'est ce qui met fin à l'actu Covid d'aujourd'hui.
Venons à présent au dossier du jour. Durant le ramadan, il était de coutume qu'une belle fille prépare un plat symbolique pour sa belle famille. De nos jours, cette pratique a tendance à disparaître pour céder la place au plateau de petits fours commandés chez les restaurateurs. Pourquoi cette nouvelle tendance? Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Que faut-il faire? Élément de réponse dans ce dossier signé Aïssata Diarra.
Des plateaux de petits fours mixtes salés et sucrés sont en longueur de journée commandés chez les restaurateurs via les réseaux sociaux. Si, selon certaines, c'est pratique et simple, pour d'autres, cette situation résulte de la paresse et de la méconnaissance des techniques culinaires des jeunes dames.
Pour certaines, c'est de la paresse, mais pour d'autres, c'est la méconnaissance même des techniques culinaires. Pour certaines filles, les mariages, c'est s'habiller et se maquiller.
On suit juste le changement, moderniser un peu les choses.
Adjaratou Traoré est mère de famille âgée d'une cinquantaine d'années. Elle estime qu'à leur époque, préparer pour la belle famille était un signe de reconnaissance et de recherche de la bénédiction pour le couple.
On le fait pour le respect et avoir la bénédiction de la belle famille. Tu es mariée et tu vas commander des choses au restaurant. Ça veut tout simplement dire que tu ne sais pas cuisiner. Aller au restaurant, c'est peut-être ce qui les arrange.
Notons que selon les érudits, préparer des plats spéciaux pour sa belle famille durant le ramadan reste volontaire et non obligatoire. Des sociologues ajoutent que ce sont des pratiques qui apportent juste l'attente et le respect dans notre société.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, des hommes armés non identifiés ont tué ce week-end un élément du mouvement Gandaïso au cours d'un braquage au quartier château de Gao. Selon des sources locales, la victime a reçu plusieurs balles et a succombé avant d'être évacuée à l'hôpital. Les mêmes sources rapportent que les braqueurs sont repartis avec sa moto. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal présenté par Sekou Gadjigo à la mise en onde de Gagné. Kanté, merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette édition sur notre site www.studiotamani.org ou en appelant au 37 321.